Bonjour et bienvenue à tous sur ce plateau exceptionnel installé au lycée Émile Pétavin à Mende. Vous écoutez le média lycéen Tech News. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir plusieurs membres du Conseil constitutionnel pour une émission spéciale consacrée aux jeunes, à leurs inquiétudes et plus largement au rôle de la Constitution dans notre démocratie. Et pour en parler aujourd'hui, nous recevons Laurence Vincenski, magistrate, députée de la 3e circonscription du Puy-de-Dôme de 2017 à 2024 et depuis 2025, membre du Conseil constitutionnel. François Sénère, conseiller d'État, spécialiste du droit public et membre du Conseil constitutionnel depuis 2022. Et enfin, Philippe Bas, ancien ministre, ancien sénateur de la Manche et membre du Conseil constitutionnel depuis 2025. Bonjour à tous et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour.
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 Dès qu'on a appris votre venue en Lozère et dans notre lycée, la rédaction Tech News s'est intéressée au sujet qui interroge aujourd'hui les jeunes. Nous avons donc préparé plusieurs questions pour essayer de comprendre comment le droit et la Constitution peuvent répondre à ces préoccupations très concrètes. Le Conseil constitutionnel était cet après-midi dans plusieurs classes du lycée pour échanger avec les élèves autour du fonctionnement de l'institution et de son rôle dans la protection des droits et des libertés. Demain, ses membres seront également présents au tribunal de Mende pour une audience délocalisée du Conseil constitutionnel. Avec moi au micro, Kenzo. Bonjour Kenzo.
Bonjour Clairville.
Et pour ouvrir cette émission, Kenzo, tu voulais commencer avec un sujet qui semble particulièrement inquiéter beaucoup de jeunes aujourd'hui. On t'écoute.
Oui, je vais aborder un sujet qui préoccupe une grande partie de mes camarades, la question de la mobilisation militaire des jeunes en cas de conflit armé. En novembre 2025, le général Mandon a déclaré durant un discours devant les maires de France qu'il fallait se préparer en cas de conflit, notamment face aux menaces existantes, à perdre nos enfants. Si cette situation de conflit armé survenait, quel est le cadre constitutionnel précis de la mobilisation? Et est-ce que les jeunes de 18 à 25 ans seraient-ils obligatoirement mobilisés dans le cadre d'un conflit armé?
Je veux bien essayer de répondre à cette question qui est compliquée. Et pour y répondre, je pense à l'histoire de France. C'est vrai que dans les périodes les plus tragiques de l'histoire, il a fallu que les Français prennent les armes. Et évidemment, c'est une situation que personne ne peut souhaiter et que nous préférons ignorer aujourd'hui, puisque depuis 1945, il n'y a jamais eu de guerre sur le territoire français, même si les armées françaises ont été engagées sur des théâtres d'opérations, par exemple pendant la guerre d'Algérie, mais aussi par des opérations extérieures de maintien de la paix au Moyen-Orient, en Afrique, en Afghanistan. La question de la mobilisation, si on la regarde uniquement sur le plan juridique, elle se présente dans des termes sur le plan juridique qui n'ont pas réellement changé. Même si la nature de la guerre a changé et fait qu'on a moins besoin d'hommes et peut-être plus besoin de technologie aujourd'hui par rapport à ce qui était le cas dans notre longue histoire. Mais dès la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la France a admis qu'il y avait besoin non seulement d'une administration, d'un État, mais aussi d'une force armée pour pouvoir se défendre. C'est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme, qui est le texte constitutionnel le plus important que nous ayons en France. Et dans la Constitution de 1958, il est dit aussi que la loi votée par le Parlement, contrôlée éventuellement par le Conseil constitutionnel, doit déterminer les sujétions imposées aux Français en leur personne et en leur bien pour la défense de la nation. Et donc, dans des circonstances qu'on ne peut pas imaginer, il ne faut pas non plus faire peur à nos concitoyens et aux jeunes. Oui, dans des circonstances ultimes, très très graves, plutôt que d'être envahi, par exemple, et de vivre sous la coupe d'un ennemi qui pourrait persécuter les Français, on peut être amené à devoir défendre de nos libertés, notre indépendance nationale, et la Constitution ne l'interdit pas.
Et quand on parle de guerre et la mobilisation, moi j'ai certains camarades de classe qui s'inquiètent. Est-ce que vous comprenez leur peur?
mais je la partage. Non seulement je la comprends, mais je la partage égoïstement pour moi-même, mais je la partage pour mes enfants, mes petits-enfants. Et nous sommes tous dans la même situation de crainte. Mais quand vous gouvernez un pays, vous ne pouvez pas être uniquement mu par une forme de peur. Vous savez, si vous regardez bien l'histoire, quand on a laissé monter Hitler en puissance, on n'a pas eu raison. Ça a entraîné de telles catastrophes qu'il faut se dire que la responsabilité des hommes d'État, elle peut les conduire à prendre des décisions qu'ils ne voudraient en aucun cas prendre, si c'était possible. Mais ce sont des situations extrêmement difficiles. Enfin, en ce qui nous concerne, membres du Conseil constitutionnel, nous ne pouvons que rester à notre place, qui est celle du juge du respect des libertés par la loi. Mais ces considérations-là, vous les amenez pour nous faire partager les inquiétudes de la jeunesse. Je ne peux que vous répondre que ces inquiétudes, bien sûr, nous les partageons.
Et oui, cette question de la mobilisation, elle inquiète beaucoup les jeunes. Mais dans la rédaction Tech News, on a aussi soulevé d'autres préoccupations. Je m'adresse à vous, Madame Wisniewski. On est à une semaine, jour pour jour, des résultats Parcoursup. Et les jeunes s'interrogent sur de quoi sera fait leur avenir. Récemment, l'INSEE il a publié des chiffres qui montrent que le taux de chômage des 15-24 ans il dépasse aujourd'hui les 21%, donc c'est presque trois fois plus que la moyenne nationale. Face à l'augmentation du coût de la vie et à la difficulté d'insertion professionnelle qui touche particulièrement les jeunes, est-ce qu'on pourrait envisager une modification de l'article 1 de la Constitution qui, je cite, affirme « La France assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens » sans distinction d'origine, de race ou de religion. Je vous pose la question parce qu'on a vu que l'article 8 de la Constitution suisse, elle garantit la non-discrimination en raison de l'âge. Est-ce qu'il serait possible, un jour, qu'en France, on inscrive cette notion d'âge dans la Constitution, en plus de cette notion d'origine, de race et de religion ?
Alors, la question est immense. Elle va surtout me donner l'occasion de vous dire ce que... La Constitution ne permet pas au Conseil constitutionnel. Et lorsque j'entends vos préoccupations, qui sont aussi les miennes, parce que, comme Philippe Bas, j'ai des enfants, des petits-enfants, et je m'interroge sur leur situation à venir, leur situation économique à venir, je sais que ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui va pouvoir répondre à cette inquiétude. Il faut mobiliser ses élus, il faut mobiliser son député, il faut mobiliser son sénateur de manière à ce que ceux-ci interpellent le gouvernement ou de manière à ce que ceux-ci déposent un texte, le cas échéant, qui pourrait concrétiser un dispositif. Mais ce que je pense, c'est que beaucoup de ces dispositifs relèveraient plutôt du gouvernement, c'est-à-dire de l'exécutif, dans la mise en place de politiques publiques. Ça n'exclut pas la loi, mais beaucoup de mesures pourraient être prises sans l'intervention du législateur. Et si le législateur intervient, et si le Conseil constitutionnel devait être saisi d'une loi de ce type, une fois qu'elle a été votée, à la suite d'un recours, il serait peut-être amené à examiner si le principe d'égalité a été respecté ou non, ou s'il peut lui être porté atteinte pour répondre à d'autres objectifs d'intérêt général.
Le Conseil constitutionnel, c'est effectivement pas lui qui crée les lois de lui-même, mais quand il y a une mesure qui vise spécifiquement les jeunes, quels sont, vous, dans votre rôle, les principaux critères que vous regardez pour que sa conformité, elle reste conforme à la Constitution ?
Alors, je n'ai pas eu à titre personnel à examiner de tels dispositifs dans le cadre des saisines que j'ai connues depuis que j'ai été nommée au Conseil. Peut-être que François en a connu, je ne sais pas. Philippe, non, puisqu'il est arrivé en même temps que moi. Mais là encore, comme je vous le disais, le Conseil recherche toujours un équilibre. Et pour essayer d'atteindre cet équilibre, il a recours à la proportionnalité. On peut porter atteinte à l'égalité des citoyens entre eux et peut-être avantager certains si cette atteinte est justifiée par un autre objectif de nature, lui aussi, constitutionnel. Et ensuite, le Conseil apprécie. Mais je ne peux pas me prononcer par avance sur une situation dont nous ne sommes pas saisis, et ce ne serait pas à moi de le faire aujourd'hui dans le cadre de cette interview.
Très bien, merci.
Merci pour vos réponses déjà. Et dernier thème qui a intéressé la rédaction de Telnews, les menaces autoritaires et les attaques envers l'état de droit en France. Une question pour vous, Monsieur Sénèrs. Si en 2027, un président autoritaire est élu au pouvoir avec une majorité absolue, peut-il nommer les membres du Conseil constitutionnel pour renforcer son pouvoir et faciliter la promulgation de mesures contraires à la loi et aux libertés individuelles? Ce scénario est-il possible?
Je suis un petit peu gêné par la première partie de votre question. Qu'est-ce que c'est qu'un président autoritaire? Il faudrait se mettre d'accord. Bon, passons là-dessus. Je voulais parler que le prochain président de la République qui sera élu, en principe l'année prochaine, il sera élu par le peuple français souverain. Donc, ce qui sera autoritaire, pas autoritaire, j'imagine que chacun aura son avis sur la question, mais ce sera le président de la République. Et donc, à la première partie de la question, pourra-t-il nommer alors des membres du Conseil constitutionnel? Non. Il pourra nommer un membre du Conseil constitutionnel, puisque les trois membres qui devront être nommés dans 2 ans, maintenant après sa nomination à lui, son élection, seront nommés un par le ou la présidente de l'Assemblée nationale et un par le ou la présidente du Sénat. Donc, en tout état de cause, un président de la République ne peut nommer qu'un tiers des membres du Conseil constitutionnel. Alors, deuxième partie de la question, un nouveau président de la République auquel on prêterait une nature autoritaire, pourrait-il, avec une majorité, premier élément de réponse, il faut qu'il ait une majorité, donc ça veut dire quand même 2 suffrages du peuple français souverain, un pour élire le président de la République, un second pour lui donner une majorité. Est-ce qu'un président doté d'une majorité pourrait prendre, avec l'aide du Conseil constitutionnel, je comprends la question, des mesures attentatoires à des principes fondamentaux du droit, violer la Constitution? La réponse est immanquablement non. Depuis que le Conseil constitutionnel existe, il a toujours montré une très grande rectitude dans l'exercice de ses fonctions et donc une parfaite impartialité juridique au regard des questions qu'il a à trancher, indépendamment de toute configuration politique et de toute supposée allégeance de tel ou tel de ses membres. Voilà. La force d'une juridiction, il ne faut jamais le perdre de vue, c'est la collégialité. Le Conseil constitutionnel, c'est 9 juges constitutionnels, ce qui veut dire qu'une décision ne peut pas être rendue avec moins que 5 juges, sauf s'il y a un absent. Il faut de toute façon une majorité. Donc l'idée qu'un président de la République nommant un juge qui aurait une orientation partisane, suivi par un ou une présidente de l'Assemblée nationale qui aurait lui ou elle aussi une orientation partisane, supposer que l'opération puisse se reproduire au Sénat, ce qui est quand même plus douteux, je dis ça devant un ancien sénateur, c'est quand même extrêmement peu plausible et en tout état de cause, ça ne fait pas une majorité de juges constitutionnels. Donc, la solidité de notre équilibre me paraît en réalité écarter cette crainte qu'il est bon d'avoir intellectuellement, mais qui ne peut pas, je crois, correspondre à un scénario juridictionnel proche.
Est-ce qu'on pourrait envisager qu'un jour le Conseil constitutionnel se saisisse lui-même pour contrôler la conformité d'une loi qui juge liberticide?
Alors, on ne pourrait l'envisager que si c'était prévu par la Constitution, parce qu'aujourd'hui, c'est absolument exclu. Comme je le disais devant la classe dans laquelle je suis intervenu, une des règles fondamentales depuis la Révolution française, c'est que les juges ne s'auto-saisissent pas. Ils sont saisis par les partis qui leur demandent de trancher un litige. Et ça vaut aujourd'hui pour le Conseil constitutionnel comme pour tous les autres juges. Le juge judiciaire ne se saisit pas, le juge administratif ne s'auto-saisit pas, le juge constitutionnel ne s'auto-saisit pas. Sans quoi on risque effectivement de basculer dans une autre logique qui rappellerait ce, débat parfois un peu virulent sur ce que certains appellent le gouvernement des juges. Alors, pour que ce soit possible, il faudrait qu'on change la Constitution. On peut l'imaginer intellectuellement. C'est tellement contraire à la tradition juridictionnelle française et tellement peu probable, me semble-t-il, dans le débat public contemporain, que je crois que, pour autant qu'on puisse anticiper l'avenir, ça reste une hypothèse purement théorique.
Je me permets de revenir sur le thème des jeunes et de leur avenir. En tout cas, c'est une idée qui ressort beaucoup chez les jeunes de la hausse du coût de la vie. Des études montrent que près d'un étudiant sur deux exerce une activité rémunérée pendant ses études. En parallèle, l'État y finance effectivement déjà plusieurs dispositifs. On a eu la généralisation des repas à 1 euro au CROUS grâce à la loi de finances 2026. Selon vous, jusqu'où la loi et les finances publiques elles peuvent aller pour accompagner les étudiants vers l'autonomie tout en respectant le principe d'égalité?
Alors, voilà, François dit, il ne faut pas répondre. Alors, je vais essayer de répondre, mais peut-être pas aussi directement que vous le souhaiteriez. C'est-à-dire que là encore, le juge constitutionnel n'est pas législateur. Donc, je ne vais pas concevoir un dispositif législatif. J'ai été députée, je l'ai fait par le passé. J'ai imaginé des amendements ou même des textes qui pourraient traduire les convictions qui étaient les miennes. Mais aujourd'hui, ça n'est pas mon rôle et ça n'est pas le rôle de mes collègues. En revanche, comme j'ai essayé de le faire dans la classe où j'étais, motivez-vous les uns et les autres, vous avez quasiment tous 18 ans ou plus, pour, à l'occasion des prochains votes qui vont intervenir et qui seront les vôtres, motivez-vous pour aller voir vos futurs représentants et leur dire quelles sont vos difficultés, quelles sont vos espérances et quels sont les textes sur lesquels, ou en tout cas les dispositifs sur lesquels vous souhaiteriez les uns et les autres que une prochaine majorité travaille. Ensuite, ce sera le travail, ce sera l'office, le cas échéant du Conseil constitutionnel, s'il était saisi d'un recours, d'examiner s'il y a une atteinte trop importante au principe d'égalité au regard des autres considérations en cause, c'est-à-dire des situations différentes, un objectif aussi d'intégration qui est très fort. Si vous lisez le préambule de la Constitution de 1946, vous verrez que on peut l'invoquer à bien des égards, mais ce ne sera qu'un travail qui suivra celui du législateur et le cas échéant.
Et oui, c'est pas votre fonction première, mais plutôt...
Non, malheureusement, à chaque fois, je vous ai quasiment répondu cela, mais c'est aussi notre rôle que de vous dire ce que nous ne pouvons pas faire.
Très bien. Merci à tous. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir répondu à nos questions, d'avoir aussi pris le temps d'échanger avec les élèves du lycée Émile Pétavin. Merci Kenzo.
Merci Carly.
On rappelle que nous étions aujourd'hui avec Laurence Vincenzi, François Seners et Philippe Bas, tous trois membres du Conseil constitutionnel. Merci également à vous tous de nous avoir suivis sur Tech News, média du lycée Émile Pétavin, Amende. Vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur 48 FM. À très bientôt sur Tech News.